Vous écoutez l'émission Les Voix d'Autrement,
une émission réalisée par l'association Quoi de Neuf, grâce au soutien de la Fondation Jean-Marie Bruno et de la FNARS, la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale.
Les Voix d'Autrement, moi je vois. V-O-I-E-S.
Ah, non. Toi tu vois les Voix d'Autrement,
ouais, les voix, la façon la de voix. Faire les choses autrement.
D'accord, un cheminement...
Cheminement autre.
On dit que la voix qui parle est le plus court chemin d'un homme à un autre.
Puis on est autrement, on est tous autrement de toute façon.
Et quand les reporters sans œillères prennent la parole et qu'ils se racontent, l'histoire n'est plus la même. Et les chemins qui les mènent sont des voies d'autrement.
Mon voyage au Japon, c'est une évidence. C'est même, je pense, la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je suis parti un mois et demi au Japon. Et les trois premières semaines, je me suis totalement immergé dans la nature, en pleine montagne. J'ai eu le sentiment de retrouver mes sources, de retrouver mon enfance avec mon grand-père qui était très proche de la nature. Et j'ai vraiment retrouvé tout ça là-bas, quoi. Mon grand-père est décédé 10 ans avant mon voyage, approximativement. Je pense qu'il n'y avait pas une journée où j'étais dans la montagne sans penser à lui, quoi. Enfin, mon voyage au Japon, c'est vraiment un instant mais magique pour moi, quoi. J'y suis allé en 2009. Et je pense que depuis 2009, je suis tous les jours là-bas, quoi. Moi, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, parce qu'il y a vraiment l'avant-Japon et l'après-Japon, c'est qu'on entend toujours parler de choses par rapport à un pays inconnu. Il y a beaucoup de fantasmes, en fait, par rapport aux cultures différentes. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame. Je vois, par exemple, moi, un élément qui était vraiment fort dans tout ce qu'on m'a décrit avant que j'y aille, c'est que les Japonais sont très froids. Il n'y a pas de communication facile avec eux. Ben, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti, quoi. Les gens sont venus vers nous assez facilement. Ils venaient parler avec nous, même s'il y avait la barrière de la langue. Parce que moi, je parle anglais. Eux, ils parlaient pas anglais. Parce que, en fait, j'étais au sud du Japon, sur Shikoku. Mmh. Donc, c'est une île qui est vraiment très peu peuplée, en pleine montagne. Et on pouvait être 2 jours, 3 jours sans rencontrer de village. Donc il y avait la barrière de la langue, la barrière de l'écriture, parce que la calligraphie n'est pas du tout la même. Donc malgré qu'on soit un peu perdu dans la nature, par rapport à la culture, par rapport à la calligraphie, on était super à l'aise. Les gens étaient souriants, ils essayaient de comprendre nos attentes, ils nous ont offert des cadeaux. Ils nous offraient à boire, ils nous ont offert à manger, c'était vraiment sympa, quoi. Et moi, ce qui me fascinait chez mon grand-père, c'est qu'il vivait en totale autarcie. Il était ouvrier, paysan. Il s'autosuffisait en nourriture, que ce soit en légumes, en viande. Il avait vraiment tout ce qu'il lui fallait. Il faisait son vin, il faisait son eau de vie, la fameuse eau de vie de poire. Il faisait son cidre, il faisait son bois, il faisait sa charcuterie. En fait, tous les ans, il tuait un cochon. Il y a un fort patrimoine culinaire dans la famille.
D'autosubsistance, en fait.
Voilà. Moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Je me suis dit... j'ai quand même eu la preuve. Moi, j'ai que 40 ans, à l'heure actuelle. J'ai quand même eu la preuve, il y a 20 ans, que c'est possible de vivre de cette manière-là en France, quoi.
Ce qui explique peut-être ta venue en Lozère, justement. Parce on tend tous, à peu près, à faire la même chose. C'est-à-dire à ne pas se laisser déposséder du monde dans lequel on vit. En quelque sorte, c'est ça aussi l'autarcie, c'est-à-dire avoir la main mise, et même si c'est du boulot et du travail, pour moi,
c'est énormément de travail.
Tu maîtrises. Mm. Tu as le sentiment de la maîtrise de ta vie, quoi. Tu l'as dans tes mains, quoi. Elle dépend de tes mains,
par contre. Oui, complètement, oui. Mm. Et puis, moi, je pense que dans cette façon de vivre, il n'y a même pas forcément de notion de liberté. On n'y réfléchit même pas, en fait. On est dans cette façon de vivre, on n'est pas à chercher des choses, en fait, comme quand on est coincé entre quatre murs, où on est toujours en attente de choses qu'on n'a pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Ils vivaient simplement, en fait. C'était une vie assez banale. Tous les jours se ressemblaient un petit peu. Mais il y avait quand même des petites choses tous les jours qui faisaient que c'était pas la même journée que la veille, quoi.
Mmh. Et toi, tu tends vers ça, c'est ça ? Quelque part ?
Oui, complètement. Ouais. Me rapprocher de la nature, parce que moi j'ai vécu essentiellement
envie d'un truc.
Bah, en fait, mon enfance s'est fait quand même assez longtemps chez mon grand-père. Et puis, vu que je viens d'une petite ville, j'avais envie de plus de... J'avais envie de mouvement, en fait. Et puis, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était artistique. Et comme la ville d'où je viens, les mentalités sont pas très ouvertes là-dessus. Du coup, moi, je pensais que pour m'épanouir, il me fallait vivre dans des grosses agglomérations. Et ça a été le cas pendant une quinzaine d'années. Et puis, il y avait toujours un petit manque de quelque chose. Et puis, je me suis aperçu aussi les dernières années que, en vivant en ville, je passais quand même plus de temps dans la forêt ou dans la nature dès que je pouvais en trouver que dans la ville. En fait, la ville, c'était uniquement pour travailler, finalement. Et au bout de ces 15 ans, en fait, j'ai pris conscience que c'est peut-être pas forcément ce que j'en cherchais, finalement. Il a fallu que je vive autre chose, que je me dépayse, pour ensuite vouloir revenir à ce que j'ai pu connaître.
Tu racontais la dernière fois que quand tu étais jeune, 20 ans en gros, tu faisais de la peinture et de la chorégraphie. Hein. Tu as découvert ça tout en même temps, c'est-à-dire l'art en fait, l'expression artistique en premier.
Alors, l'artistique dans ma vie en fait c'est un peu un mystère. Parce que autant tout ce que j'ai pu, enfin tout ce qui me nourrit, que ce soit la cuisine, l'envie de nature, c'est quand même franchement enraciné dans ma famille. Mais par contre, l'artistique, pas du tout. Alors, je sais pas du tout d'où ça vient. Je n'ai pas de souvenir de rencontres d'artistes quand j'étais gamin. Enfin, je sais pas. C'est venu comme ça, quoi. Et j'ai toujours été intéressé par le dessin. Et puis finalement, avec le temps, j'en suis venu à la peinture à l'huile. Je me suis énormément intéressé aux peintres, notamment les expressionnistes allemands, Egon Schiele, Klimt. L'envie de découvrir l'intérieur de l'être humain aussi. Donc je pense que c'est pour ça que je suis venu à ça. Et puis, c'est ce que je racontais brièvement la dernière fois, c'est que en peignant, je me suis mis à peindre sur des plus grands formats. Et puis je suis arrivé à de tels formats que finalement je couchais pour des raisons pratiques ma toile. Et puis finalement, en peignant des grandes surfaces, mes mouvements étaient pas les mêmes. J'ai commencé à les chorégraphier. Et sans véritablement connaître la danse contemporaine, j'en suis venu à la danse contemporaine. Et en fait, c'est toujours...
Tu t'es transformé en pinceau.
Voilà, c'est ça. ça s'est fait. Mais... Et ouais, je sais pas, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait, qui donnait sur une autre porte, et puis moi je pense que ma vie c'est un peu ça en fait. Je me balade de porte en porte.
D'accord.
Et le déclic, ça a été en 2009, donc ce voyage au Japon, où je me suis pris une claque à tous les niveaux, et puis et c'est là où je me suis dit, la ville c'est bon, on arrête, maintenant je cherche un petit village, et on l'a trouvé il y a quelques mois à Florac.
Et depuis le temps que je me disais, il faut aller en Lozère parce que par rapport à, sur la route, à ce que j'entends, sur la route, comme pèlerin, eh bien, je suis venu en Lozère. Je crois que j'aurais dû venir bien à l'avant, en Lozère. Les années passent.
Donc toi qui es nomade, tu veux te sédentariser?
Mais je suis un nomade.
Ouais, mais tu veux te sédentariser en Lozère? Tu serais prêt?
Absolument pas.
Non, d'accord.
Je suis un nomade. J'étais au Niger, si j'ai traversé le Sahara. J'ai traversé deux fois toute l'Algérie pour aller au Niger.
C'est pas pour devenir sédentaire?
C'est pour rencontrer des gens. Comme je suis venu ici pour rencontrer des gens, pour découvrir Lozère, pour rencontrer des gens. Si je vais dans le Sahara, c'est pour rencontrer des gens qui vivent dans le désert. Dans le Sahara.
Alors, je les ai rencontrés.
C'est ça le but. C'est ça la vie d'un pèlerin. C'est de rencontrer des gens et du paysage. Aussi bien la Lozère que le Sahara. Parce que j'ai côtoyé les Touaregs. Les hommes bleus, comme on dit, les hommes bleus. Les Touaregs. La signification Touareg. D'un journaliste, me dire... La signification, je parle. Je l'ai lu, je sais pas. Franchement, je sais pas. La signification, c'est les oubliés, les abandonnés de Dieu. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Les oubliés, les abandonnés de Dieu.
Donc tu te sens un homme bleu?
Complètement.
D'accord.
Complètement. Bleu indigo.
Bleu indigo.
D'ailleurs, au fond de moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, quoi. C'est clair.
Dans le désert?
C'est clair, bah oui. C'est le but.
C'est vrai qu'il y a du soleil là-bas.
Oui, ouais. Il n'y a pas que ça. Mais, et oui, bien sûr, que c'est pour ça que je suis là. Je vais ici. Il faut question nomade, question homme bleu. Les hommes bleus, moi je vais chez eux. Bon, je vais chez eux. Ils me disent, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? J'ai réfléchi. Je dis rien. J'étais une vingtaine d'hommes bleus. Quand même une vingtaine, quand même. Ils sont chez eux. J'ai mis du temps à répondre et puis j'aurais dit, je voulais traverser le désert, donc je suis venu pour traverser le désert. Et je suis venu chez vous pour vous voir. Donc, il m'avait emprunté un véhicule qui n'était pas moi. Moi, je suis au Niger. Vous pouvez le garder.
Tu l'as
parce que maintenant, je suis au Niger.
D'accord.
Et non, ils me l'ont rendu. Ça, c'est pas des images, c'est vraiment du vécu. Ouais. C'est quand même assez fou de vivre des trucs pareils. Surtout la deuxième anecdote. Mmh. Ils ont compris que j'étais comme eux. De suite, ils ont compris que je suis un nomade. Et un nomade en France.
Occidental.
Mais ouais, je suis un nomade en France.
Domaine occidental.
Mais eux, ce sont des nomades.
Mmh. Du désert.
Du désert, ouais. Du Sahara. C'est ça qui est génial. Mais de suite, ils l'ont compris. C'est qu'en vivant un peu chez eux, avec eux, ils m'ont dit, toi, t'es devenu complètement nigérien. Mais pour qu'eux, ils disent ça, dans leur pays, ils sont chez eux, ils vous disent, toi, c'est quand même...
T'es un homme bleu, quoi.
Eh ben oui, ils me disent, toi, t'es devenu complètement nigérien. Donc je vais faire comme Richard Bourringer, qui a pris la nationalité sénégalaise.
Ah.
Eh ben moi, alors à ce moment-là, moi je vais demander la nationalité nigérienne. Ah. Et la deuxième, mais toutes les deux tempêtes sahariennes au même endroit. Ah. Au même endroit.
Endroit.
Et en Algérie.
Ah.
Et au même endroit. Et avec des années d'intervalle. Toujours au même endroit.
T'avais pas de chance.
Hey. Et non, parce que c'est complètement génial.
Ouais.
C'est complètement génial. En plus, ils m'ont dit, regarde. J'ai regardé, elle est arrivée sur nous. C'est ça qui est extraordinaire. Mais regarde bien maintenant, parce qu'ils connaissent beaucoup plus que moi. Regarde parce qu'elle arrive sur nous. Alors je la vois arriver. J'ai vu carrément arriver. Qu'est-ce que vous voulez de plus génial que ça?
Alors, tu vas voir.
Il faut y aller. Ouais, je vous souhaite d'y aller. Je vous souhaite d'y aller. D'ailleurs, c'est pour ça, oui.
Que tu veux y retourner, d'ailleurs. Tu
vois,
on y est.
Et t'as l'impression que si tu vas au même endroit 20 ans après, il va y avoir une tempête de sable?
Bah, bien sûr, il y en a tout le temps.
D'accord.
Et oui, c'est là-bas que ça se passe.
Figure.
Et ça retombe ici.
Hein?
Donc voilà. Mais alors, je mets un temps fou. Je mets un temps fou. Je laisse ma santé. J'entendais laisser ma santé. Je mets un temps fou avec moi-même. Mais on voit avec moi-même à prendre une décision. Voilà, à prendre des décisions. Hey.
À savoir où tu vas aller.
Voilà.
C'est
un temps fou.
Ouais.
À prendre des décisions, à savoir où aller. Ça, c'est terrible, ça.
Et la prochaine fois, tu bouges, tu veux.
Et je sais pas.
Il sait pas.
C'est pour ça que je veux partir, je sais pas où je vais. On pensait que je vais partir, on me dit non, il faut rester ici.
Ouais.
Et parce que je sais plus où aller, je sais plus où je vais.
T'es en panne.
Ah, complètement.
T'es en panne, t'es en camion?
Moi, je suis à pied.
À pied.
Ouais.
Ouais.
Des fois, il y a des frères, ils m'emmènent. Des fois, il y a des frères moines, sont moines, monastiques, ils m'emmènent.
Okay.
Je suis passé chez eux, d'ailleurs.
Ouais.
Ils m'ont emmené.
Ils descendent Notre-Dame-des-Neiges. Ouais.
Oui.
Il est arrivé il y a 10 jours, 15 jours même.
15 jours.
Ouais, 15 jours.
C'est où, c'est Notre-Dame-des-Neiges?
Bastille.
En Ardèche.
En Ardèche.
Ils sont en Ardèche. On descend en Lozère et ils sont en Ardèche.
Par contre, il s'est fait lourder parce qu'il est trop bavard.
Ah.
C'est ça que tu me disais bien.
Ouais, c'est vrai.
Tu l'ouvrais trop, quoi.
Ouais, c'est vœu de silence.
Ah.
C'est les frères cisterciens.
Donc, tu ne conseilles pas d'aller chez les cisterciens quand on est bavard, par contre. C'est l'enfer, quoi, hein, en gros, quoi.
Eh oui. Christophe, non, il va pas.
J'y vais pas. Hein.
Non, tu y vas une nuit. Une nuit. Une nuit, mais. Ils vont te ramener, à Florac. Je crois. Parce que les cisterciens, ils plaisantent pas, quoi.
Donc il n'y a pas de prière chez toi?
Je ne sais pas prier.
Tu ne sais pas prier?
Je suis incapable. Je ne sais pas.
Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a une dimension fortement spirituelle chez toi dans le...
Oui, très très forte.
Tu peux en parler.
Spirituel, c'est intérieur.
Ouais.
C'est spirituel, c'est une voix intérieure. C'est une voix intérieure. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Bon, là, c'est pareil. Tout est dans l'esprit et tout est intérieur. C'est un esprit. Oui, c'est un esprit, oui. Mm. Et j'appelle les esprits. Parce que je crois à plusieurs esprits.
Un esprit en marche, en l'occurrence, là. Hein, quand même.
Et alors, notre désert à nous, alors, comment tu le trouves, alors?
Là, il est très beau. Mais il est très dur.
C'est-à-dire?
Il est beau, mais en plein mois de décembre. Pour quelqu'un qui traverse le désert,
ouais.
Oui, au niveau climat, parce que je crains le froid,
ouais.
Et je manque de soleil.
Mm.
Si j'ai pas de soleil, je vais tomber malade. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je reparte très très vite. D'ailleurs, j'ai failli partir à 14 heures, mais demain, il faut absolument repartir. Venir en Lozère, oui, c'est pour moi, je crois pas à la chance. Moi, j'ai jamais cru à la chance. Pour moi, c'est une destinée. On a une destinée. Et quelquefois, dans une vie, on a une destinée et il faut provoquer les choses. Parce que si on ne provoque pas certaines choses, alors il faut provoquer certaines choses parce que sinon, ça ne va pas tomber du ciel. Et en provoquant, en demandant intérieurement, en provoquant des fois des personnes, pour proposer des éléments naturels comme la terre, c'est la matrice, le père, c'est peut-être le soleil, l'eau, c'est la vie. Je sens à l'intérieur de moi, au fond de moi-même, que des fois, je ne peux pas errer comme ça des années. Je risque ma vie des fois. Donc il faut provoquer des choses. Donc je ne crois pas à la chance, je crois à une destinée. Mais il faut...
Il faut toujours provoquer.
Il faut tenir la... Pas tout le temps, pas forcément tout le temps, mais il faut tenir la route. Il faut tenir la route. Coûte que coûte. Coûte que coûte, il faut tenir la route. Parce que la moindre erreur est fatale. La moindre erreur sera fatale. Et ça, bon, ça, on le sait intérieurement de nous. On le sait depuis très longtemps.
Tu as dit une chose, là, tu dis que de plus en plus, tu te sens fatigué de la route, mais on a l'impression que tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne pourras jamais t'empêcher.
C'est pas que je suis fatigué de la route, ici, c'est super beau aussi.
Non, mais je veux dire.
J'imagine l'été, comment ça doit être. C'est magnifique.
Il faut que tu reviennes. Si tu veux dormir dans des parterres de jonquilles, il faut que tu reviennes vers nous au mois de mai.
Ouais.
Et puis après, tu vas avoir les genêts, tu vas pouvoir dormir dans les genêts. Après, tu vas pouvoir dormir dans les épilobes.
Le problème, c'est que j'ai une destinée, je ne sais pas où je vais. Je demande, intérieurement, je demande où aller. Donc, je me laisse guider. Parce que je suis incapable de dire... Maintenant, je vais à tel endroit ou tel endroit. Et maintenant, depuis quelques années, je suis incapable de décider où il faut aller. Impossible.
Donc tu te laisses porter comme...
Mais je sais que je ne vais pas rester ici. Mais là, d'accord. C'est pas gagné.
Tu veux dire que tu es en Lozère pour essayer de retourner dans le désert, c'est
ça? Voilà. Okay, je suis venu en Lozère pour le paysage et pour rencontrer des gens. Et là, c'est super parce que j'ai rencontré des gens quand même exceptionnels. Dans une communauté aussi... Dans une communauté, des gens ils vivent ensemble, c'est comme une famille. Il y a des gens aussi exceptionnels. Mais c'est une vie communautaire. Bon, et il y a des gens, c'est pour ça qu'on vit en communauté, parce qu'il y a des gens, c'est une famille, c'est comme une grande famille. On est adopté ou pas. Et il y a des gens exceptionnels dans cet endroit-là.
Il y a
des communautés, il y a toujours des gens exceptionnels.
Il y a toujours des pères et des mères adoptives.
Qu'on ne rencontre pas sur la route. Parce que la route, franchement, c'est pas facile et on ne rencontre plus. Je ne rencontre plus des gens intéressants, des gens qui tendent la main. Bah ici, il y en a en Lozère, mais ailleurs, il n'y en a plus.
Tu veux dire que les derniers sont ici?
Les derniers des Mohicans, les derniers des Indiens, ils sont là.
Tous les autres ont été amputés.
Ah oui, le dernier des Mohicans.
Tous les autres ont été amputés de leurs mains.
Ils sont cassés par la vie, ils sont cassés par les gens, ils sont cassés par beaucoup de choses. On peut être cassé par la route, on peut être cassé par le travail aussi. Si je travaille 20 ans dans la même usine, je vais être cassé. Que la route, c'est complètement génial, rencontrer des gens sur la route. Bon, bah... Il y a des gens qui vivent comme des Indiens ici, comme des Apaches, comme des Sioux. Ils habitent là-haut, là, dans les montagnes, là. Rencontre des gens comme ça, c'est génial. C'est ce que je cherchais. C'est exactement ce que j'ai. C'est ça, la Lozère. Complètement génial. J'en ai fait de la route. Et il faut que je tombe en Lozère pour rentrer les. Parce que, comme Eddie Mitchell, il dit, j'aime pas les tuniques bleues. Non. J'aime pas les tuniques bleues parce que les tuniques bleues attaquent les Indiens. Donc, les tuniques bleues, s'il vous plaît, soyez gentils, restez dans votre caserne là-bas. Venez pas embêter les Indiens qui vivent dans les montagnes. Avec des feux de camp.
We hear what you say. One earth, one mother.
Tu connais l'histoire du chat qui s'en va tout seul? Et toute chose, je suis le chat qui s'en va tout seul et toute chose se valent pour moi. Tu me fais penser à ce chat qui s'en va tout seul.
Il s'appelle pas Félix?
Oui, je sais pas comment il s'appelle. Je connais pas le nom du chat.
L'important, c'est de n'être que de passage. Le meilleur qu'on puisse ramener du voyage, c'est soi-même, sain et sauf.
Voyager ajoute à sa vie. Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui.
Voyager ne sert pas beaucoup à comprendre, mais à réactiver pendant un instant l'usage des yeux, la lecture du monde.
On sait bien où l'on veut aller, mais on ignore quand, comment, par quel chemin on y parviendra. Inutile de s'en trop soucier d'avance, on verra bien.
Si l'on ne court pas une vraie aventure, au bout de laquelle on sera vainqueur ou vaincu, avec le risque de se casser la gueule, alors ça n'a aucun intérêt.
N'ayez jamais peur de la vie, n'ayez jamais peur de l'aventure. Faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances. Le reste vous sera donné de surcroît.
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent. Pour partir, cœur léger, semblable au ballon, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours... Allons.
Je sais d'expérience que courir le monde ne sert qu'à tuer le temps. On revient aussi insatisfait qu'on est parti. Il faut faire quelque chose de plus.
Marcher seul, sac au dos, c'est se livrer entièrement aux dangers et aux hommes. Il n'y a nulle possibilité de fuite, comme à vélo, ou d'abri, comme avec une voiture.
Quiconque aspire à quelque liberté de pensée doit se priver pour longtemps du droit de se sentir autre chose qu'un errant sur la terre. Je ne dis pas un voyageur, car l'homme qui voyage se propose un but final. Or, un tel but n'existe pas. L'errant doit bien observer, tenir ses yeux bien ouverts sur le train du monde. Il doit donc interdire à son cœur toute attache un peu forte aux choses particulières, et toujours maintenir en lui cette humeur de vagabond, qu'amuse tout ce qui change et passe.
Le plus difficile pour un homme qui habite Vilvoorde et qui veut aller vivre à Hong Kong, ce n'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Vilvoorde. Vilvoorde, ça me fait penser un peu aux racines, et donc des fois à la famille, tu vois.
Les racines belges ?
Non, mais c'est son histoire de grand-père, c'est-à-dire que tu peux bien aller à Hong Kong, Il y a des choses que tu emmènes avec toi qui peuvent être d'ailleurs très embarrassantes et qui t'empêchent d'être vraiment parti. Mais il y en a aussi d'autres qui t'accompagnent très positivement. Il y a un gars qui dit à sa femme, ou le contraire, c'est l'anecdote. Viens voir chérie le bouquet au coucher de soleil, c'est pas la peine, j'ai pas apporté mon appareil photo. Est-ce que c'est une véritable anecdote ou ça sent le vrai?
Mais c'est peut-être un peu la même chose avec un micro.
Je viens d'un territoire qui était ma racine, je suis venu ici. Mais j'ai toujours envie de retourner voir mon ancien endroit. Et quand je suis ici, je le vois, j'ai des images. Et je vois donc le carnet de voyage, il est que tu rentres à la maison et tu t'assises sur ton canapé et tu voyages à nouveau, les images te reviennent. Et justement, moi, je fais l'aller-retour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je viens ici, je vois toutes des images qui m'apparaissent là-bas en Charente et je retourne là-bas, je vais voir ce que j'ai vu ici. Moi, j'ai deux points. Bon, c'est une façon de voyager entre deux endroits. Et les paysages, c'est une dimension aussi active. Un village, il vit des regards qui lui sont portés par les gens qui passent, mais aussi de tous ceux qui le voient à l'intérieur. Comment est-ce que je veux dire ? C'est cette double dimension du voyage, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est tes images. Et des fois, tu as envie de retourner dans les images que tu vois à l'intérieur. Et ça, c'est une dynamique de la méditation, de la prière et de la contemplation qui fait que tu peux prendre racine dans ton monde intérieur et dans tes images intérieures et y travailler. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et alors, comment on apprend? C'est facile. Il faut prendre la potion radiophonique. Radio Barthas. On est Radio Barthas?
Ouais. Une petite potion radiophonique.
Radiophonique. Non, mais il faut venir la chercher sur la cheminée, sinon il manque une page de l'histoire.
D'accord. Donc, si on veut boire de l'élixir
de fil de fer,
tous les matins et tous les après-midi, à quoi de
neuf? Ouais, mais on n'a pas de. Ah, à quoi de neuf?
Babel, Babel. Ripeto, va bene, calcio in mezzo, se sono sempre tutti i guadagni, quindi mi ragazzi del plus, continuo il guadagno. Merci, va bene, calcio in mezzo. Persona è tutto il loro d'entrée, continuo il guadagno, continuo il guadagno. Ripeto, va bene, calcio in mezzo.
Oui, enfin mes itinéraires, c'était souvent 2-3 jours, 300 km à scooter et 2 nuits à l'extérieur, mettons, dans un rayon de 100 km autour de Florac, Bar des Cévennes. Je pense avoir été un peu partout. D'accord. Peut-être pas, j'ai pas fait toutes les routes départementales. Mais voilà, j'ai pas élargi le rayon parce qu'un scooter, après ça fait loin, mais après ça fait. Ça demande d'autres. C'est le truc, c'est un mode de cheminement assez spécial, parce que je lui ai trouvé un type en vélo sur le Larzac qui me, je disais, j'explique, j'arrive de Barre des Cévennes, le Larzac est à 100 bornes d'ici. Et le gars, il venait à vélo de 7 sur le Larzac, à 100 bornes aussi, avec le vent du nord contre. Le type, il pouvait pas marcher, il me regarde, moi j'arrive en scooter pour dire que j'étais un peu zombie. Il n'en revenait pas que j'ai pu faire 100 bornes en scooter, alors que lui, le mec, il tenait pas debout à vélo, ben c'est rigolo. C'est des vadrouilles un peu en dehors du système, c'est pas un exploit de faire un truc, mais en fait, ça sort un peu des sentiers battus, ouais. Pourtant c'est rien d'aller se balader en scooter, faire 200 ou 300 bornes, enfin, voilà, c'était rigolo.
T'es quand même adepte du deux roues parce que t'as fait d'autres choses comme ça.
Mais parce que j'ai pas le permis aussi, mais oui, je suis adepte du deux roues, à 15 ans, j'ai fait Aveyron, Allemagne, en mobilette. À l'âge de 15 ans. Ouais. Ouais, j'ai toujours aimé la deux-roues.
Ça, c'est bien.
Ouais.
Et aujourd'hui, tu as toujours un scooter?
Ouais, l'appel, là, il est en réparation.
Après,
je vais la voir quand ma vue sera bonne. Je vais la faire.
Tu vas retourner.
Oui, peut-être que tu repars aussi loin, mais peut-être que si, pas aussi loin, c'est pas très loin non plus. Quoi. C'est...
Alors, est-ce que tu peux parler, parce que ça m'intéresse justement, le fait que même si tu es un scooter, donc le fait que le scooter te limite kilométriquement dans le cercle que tu peux découvrir.
Et on s'aperçoit qu'un cercle, si tu le fais vraiment bien, il y a pas mal de trucs. Hein.
Oui, c'est
si tu prends la base, moi je prenais une base à peu près 5 km, même pas vol d'oiseau, par route autour, tu t'aperçois que tu vois pas mal, hein, qu'on a une région favorisée. Hein. Ça va de l'Aubrac aux Cévennes, à toutes les gorges tangentes du Roubi, tous les Cosses, toutes les vallées cévenoles. Enfin, si tu peux. Ouais. Faire de géographie.
Est-ce que tu peux me parler, est-ce que tu peux me parler de deux, trois petits paradis terrestres que tu as rencontrés voilà, l'autre fois, on parlait l'autre fois de la vallée de la Tine. Hein, tu m'en parles. Voilà, mais est-ce que tu peux m'en parler d'endroits vraiment où tu.
Qui me plaisent beaucoup, pas très loin de chez elle, vers le col de l'Asclier, elle doit connaître. Ça me plaît beaucoup. Bon, après, il y en a d'autres. En fait, il y en a pas mal.
Au petit coup de cœur, là,
Le Mont Lozère, l'Aubaret, la Vialas, tous ces coins, c'est des coups de cœur aussi. Le col de l'Asclier, Tine. La balade qui est assez connue, enfin, pour ceux qui randonnent, qui surplombe les gorges de la Jonte et les gorges du Tarn, vers Saint-Pierre-des-Tripières. D'accord. Ça, c'est un coup de cœur aussi. Ben, je t'en ai cité quatre. Hein. Mais si on approfondit, il y en a d'autres. Hein.
Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu connais tous les noms de ruisseaux, les noms de hameaux.
Je connais tout. C'est aussi la lecture des cartes, ouais. Et des trucs comme ça.
Alors ça, c'est une passion.
En partie aussi, c'est parce que je m'y suis baladé aussi. Ouais. D'accord. Et en partie aussi parce que j'ai pas mal vadrouillé avec le marchand de bestiaux de bar, que j'ai aidé à livrer des trucs, dont chez le papa, la demoiselle ici présente à Saint-André de Valbogne. J'ai pu me balader en camion. Et, alors là, aller dans des fermes, des coins, ou même en scooter, je ne serais jamais allé rentrer chez des gens, des trucs exceptionnels que j'ai eu l'occasion de faire grâce à ce truc.
Quoi. Un maquignon, pardon.
Ouais, c'était un maquignon.
Ah, d'accord.
Je l'accompagnais pour aller chercher les bêtes.
D'accord.
Des chèvres, des brebis.
D'accord. Mmh.
Et là, tu vas chez les gens. Là, c'est encore autre chose.
Là, c'est du pardon, là.
Ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça.
Du pardon, là.
Ouais. C'est ce que tu peux comparer.
Ouais. Ou du striptease, t'as dû faire des...
Incroyable,
là, non ?
Des gens pittoresques, ouais, des pittoresques, il y en a. Il n'y a pas que du pittoresque, il y a des gens classiques, mais c'est plutôt que quand tu vois commencer les Cévennes, t'as des bouts de route ou des pistes, tout, si tu n'y vas pas esprit, faut vraiment y aller esprit, quoi.
Mmh. Mmh. Est-ce que tu es du genre, justement, à regarder une carte et à prendre un chemin en sachant qu'il est sans issue?
Peut-être, si c'est mentionné, une carte, un point de vue, un truc comme ça, il faut qu'il y ait un petit attrait comme ça. Mmh. Sinon, non, pas comme ça, non. Il faut qu'il y ait un petit attrait.
Est-ce qu'il y a un plaisir à se perdre chez toi? Justement, le mec qui est toujours dans les cartes, il ne veut pas se perdre. Est-ce qu'il y a un plaisir à se perdre pour toi?
À s'égarer un peu, pas longtemps. À s'égarer, pas à se perdre. À s'égarer, à tourner un peu, mais après, j'aime
pas longtemps. Ouais.
Ni même à pied aux champignons, tout ça, j'aime pas.
Tourner en
rond. C'est dès qu'il y a du brouillard un peu épais, tout, j'aime pas ça, quoi. Après, à s'égarer, à dire « Ah merde, là, j'aurais pu passer par le monde. » Là, ça me plaît, mais il ne faut pas que ça dure plus d'une heure ou deux. Quoi. Après, je panique vite.
D'accord. Pourquoi toi, tu n'es pas un sédentaire, en fait? Pourquoi tu as besoin de te déplacer, en fait?
Pour
le boulot, certes, mais...
Pour le boulot, voilà. Ça me permet d'aller voir d'autres pâturages. Et puis, pour se renouveler de façon énergétique, quoi. De rester tout le temps au même endroit, ça me paraît difficile, quoi. Mmh. Puis on rencontre des super personnes en voyage, quoi. Là, je suis parti au Maroc pendant 3 mois l'hiver dernier.
Ouais.
Et ce qui est génial dans ce pays, c'est que les gens vivent dehors. Moi, vu que je vis dehors, je suis content quand même de voir plein de gens qui sont dehors, quoi. Et donc c'est une vie beaucoup plus... le soleil, évidemment, ça aide. Hein. Et on rencontre plein de gens, voilà, et des fois, on fait des vraies rencontres, vraiment des rencontres qui sortent du cadre de mercantile. C'est un peu ça, la société, elle tourne comme ça. De toute manière, c'est toujours un peu, t'as un truc à me vendre, à échanger. Et il y a des gens qui t'accueillent vraiment pour la personne humaine, quoi. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai rencontré 2 ou 3, qui accueillent vraiment le cœur sur la main, et sans attendre un retour de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des gens qui marquent, qu'on a envie de revoir, et... Ils sont des êtres humains au-delà des frontières, des coutumes, des pays.
Qui sont des cousins d'ailleurs.
Voilà, qui sont.
C'est comme ça, Niger. Thank you.
Faculté d'adaptation très rapide qu'il y a ici, qui conçoit. Il suffit de donner un peu du sien, de vouloir discuter, de ne pas être terré chez soi, et c'est relativement facile de se créer un petit milieu de personnes qu'on aime bien, quoi.
Voilà. De rencontrer des hommes, en fait.
Ouais, ouais,
tu avais dit la dernière fois, ce qui était beau dans les Cévennes, c'est que c'était un pays à hauteur d'homme.
Et je ne suis pas quelqu'un qui peut rester dans sa merde à rien foutre non plus.
Est-ce que tu aimerais apprendre un métier, une formation que tu aimerais faire?
Ouais.
Alors c'est quoi? Raconte-nous qu'on pourrait t'aiguiller peut-être.
Je sais pas, travailler par exemple en boîte de nuit ou quelque chose comme ça.
D'accord. C'est vrai que les boîtes de nuit, ça court pas les rues dans nos Cévennes.
C'est pas plus mal.
Ouais, c'est peut-être, ouais. Justement, c'est peut-être pour ça que les gens viennent en Cévennes, c'est peut-être moins de nuit. Voilà. Ouais, les boîtes de nuit, à part Saint-Chély, il y en a une à Saint-Chély, est-ce qu'il y en a une à Mont?
Pourquoi pas en ouvrir une si j'arrive à avoir les finances.
Ouais.
D'accord. Parce qu'il y en a des jeunes qui demandent que ça le week-end à s'éclater, et vu qu'il n'y a rien dans les parages.
Mais ben, en même temps, tu es d'accord pour être. Faut comment? Travailler dans une boîte de nuit, tu n'as pas besoin d'être formé. Si tu devais être formé pour quelque chose, un métier qui t'attirerait.
Faire DJ. Vers,
hein?
Être formé pour être DJ.
DJ? D'accord.
Ouais.
Ouais, donc c'est vraiment ton truc, c'est la, ouais, c'est
la musique.
Ouais,
voilà.
D'accord.
Ou boxeur, mais ça c'est pas un métier de prendre des pains ou d'en donner.
Ouais.
C'est plus un sport et un loisir qu'autre chose.
Ouais.
Ouais, je sais pas, qu'est-ce que pourrait faire un boxeur pour se recycler ensuite?
Videur.
Videur.
Ah ouais. Dans une boîte.
Dans une boîte.
J'ai déjà fait une blague.
DJ, videur ou travailler dans une discothèque. Ouais.
Ouais.
En fait, des videurs, il en faut toujours. Quoi, quand même. Mmh. Je sais pas ce qu'il y a trop à vider en Moselle. Je sais même pas s'il y a des
choses. Qu'on n'est pas nombreux.
Déjà qu'on n'est pas nombreux. Si on commence, justement, ils essayent au contraire de faire venir du monde, d'éviter qu'on les vide, enfin, qu'on nous vide, de tous ces habitants qui partent.
Ça m'est déjà arrivé de faire vider par un videur.
Ah oui, mais à tout le monde. Alors, Jérémy,
comment au quotidien ça nourrit ta vie?
Ben, ça le nourrit de façon concrète. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, enfin presque 3 maintenant, je suis parti des villes pour découvrir la Lozère par le sud et installé à Florac depuis 2 ans et demi. Et quand je vois dans le champ des possibles, justement, de ce que l'action humaine permet de faire et de réaliser, ça peut paraître des gouttes d'eau, mais en tout cas, elles sont concrètes, elles sont réelles. Je vais prendre l'exemple de l'action des fruits perdus de Cécile, qui n'a rien à voir avec la radio. Premier prix, quoi. Petit truc paumé en Lozère, eh ben, sur le plan national, c'est quand même son activité et cette action-là qui a gagné, quoi. Au moins, en tout cas, je ne sais pas si ça portera quelque chose derrière. Ce qu'il en est, en tout cas, c'est qu'il y a une reconnaissance, mais malgré tout, de l'État, quoi. Même si on s'en fout que c'est dans un ministère, que c'est pour faire peut-être bien sur un papier et un bilan, en attendant, concrètement, c'est réel. Ben, la réalisation de la fresque, par exemple. J'ai pas de statut, j'ai pas eu rien. Hop, tac, 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 on en a discuté, ça s'est fait, ça fait plaisir à plein de gens, finalement. Juste par de bonnes volontés humaines, quoi. Rien de plus. Et ça, c'est vrai que c'est fabuleux, quoi. Et je pense que ce microcosme, il n'est pas spécifique qu'à la Lozère, mais qu'il est spécifique aux lieux, justement, qui sont peu peuplés et où la nature reste là. Ben...
Ouais, parce que peu ont parlé de ça, justement, de la nature, parce que...
Ben, c'est elle qui reste la plus forte ici, quoi.
Et quand je suis arrivé ici, je me suis pris une claque de tranquillité qui m'a vacciné de la ville pour le reste de ma vie, quoi. En vivant en Lozère, on s'inscrit dans un temps en dehors du temps. C'est comme une bulle pour moi. Une bulle d'extravagance et d'utopie, des fois.
Une bulle de montagne et de nuages.
J'aime bien revenir ici parce que je connais des gens, j'ai mes habitudes. Puis j'aime beaucoup la nature, me balader, tout ça. J'ai toujours tilté sur la force de la nature la première fois que je suis venu dans cette région. Mm-hmm. Et puis c'est vrai qu'on peut évoluer. Moi, je suis quelqu'un d'assez lent. Donc on peut évoluer tranquillement ici. Voilà, quoi, c'est...
Je dirais pas que t'es lent, je dirais que tu te donnes le temps.
Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Ouais.
Non, mais
je suis
pas la même chose.
Je me donne le temps, donc ici c'est au poil, quoi. C'est pour ça.
Humainement parlant, est-ce que tu es d'accord avec Didier? Il y a des Apaches et des Sioux ici et des,
Oui, ça se sent, enfin ça se voit. Y a pas la force de vivre proche de la nature. Il y a des qualités qui se développent. C'est évident, quoi. C'est évident. Là où la nature est plus forte, les gens deviennent plus beaux, et alors que là où le système est plus lourd, les gens perdent ce contact, et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, parce que ça faisait des gens tristes, qui sont un peu perdus, assommés par leur travail.
T'as besoin d'avoir ta petite dose de nature, en fait, on continue, quoi. T'as besoin d'être branché sur elle, quoi.
Oui, j'ai besoin. Moi, je suis né à la campagne, j'ai toujours vécu à la campagne. Donc, c'est ça qui me parle, hein. Après, tout ce qui est bruit, stress, il faut se dépêcher. Il faut vite se dépêcher de vivre pour vite mourir, ou un truc dans le style. Ça me branche pas trop, quoi. Enfin,
c'est pas ta syntaxe, quoi.
Ouais, c'est... Quand on va à Paris, quand on voit tous les gens qui vont très vite, c'est pas normal, quoi. Le rythme de la nature, c'est le rythme de référence. Et quand l'homme va trop vite, il meurt, il a des maladies, il se casse plus facilement, quoi. Ça, c'est une règle de base, quoi.
Jérémy, tes petits paradis terrestres et tes petits voyages intérieurs?
Ben, petit, non, il n'y en a aucun qui est petit, justement. les voyages intérieurs, c'est comme au départ l'habitat, je le localise comme étant l'intérieur du corps. Pour l'esprit, il est évident aussi, mais c'est même pas une question de logique, c'est même pas du bon sens non plus, je pense que c'est juste ainsi, que c'est aussi le premier lieu par lequel on voyage. Avant, Didier, quand on était dehors, il me disait, des fois, tac, je trace, même au milieu de la nuit, quand il faut. Et c'est intéressant parce que moi, ça m'a rappelé que tous les voyages que j'ai faits plus jeunes de vagabondage, donc où vraiment je partais comme ça à l'aventure et à la découverte de moi-même, bien souvent, c'est des instants qui n'étaient jamais prévus, c'était toujours spontané. Et finalement, cette richesse que t'apporte de te perdre, alors paradoxalement, moi, dans tous mes voyages, ceux où je suis vraiment allé loin, c'est ceux où j'ai réussi à me perdre. Que ce soit dans les voyages intérieurs ou les voyages physiques, je me suis retrouvé perdu dans les deux, dans l'esprit et dans la matière. Et il n'y a rien de mieux pour se trouver soi, quoi, que de se perdre d'abord. Parce qu'en réalité, ce qu'on croit perdre, c'est juste le filet de l'ego qui nous maintient enchaînés, quoi. Et c'est vrai que la Lozère a cette particularité de me porter spontanément. Moi, ce que je dis souvent à des gens qui me disent « Ah tiens, moi je pars le matin à 5h, 5h30, je grimpe sur le Causse, je chope le premier lever, enfin le lever du jour en méditant sur mon rocher. » Je trouve ça absurde dans le sens où moi des fois j'ai médité à ma fenêtre. Juste parce que ce jour-là, je reste un peu plus attentif au cuicui d'un piaf qui va attirer mon regard sur un nuage ou le soleil, et puis pioum, je pars. Mais je m'en suis même pas rendu compte avant de revenir justement dans les limites, on va dire, de l'environnement immédiat, quoi.
Quand tu parlais de vagabondage tout à l'heure, c'était des fugues ?
Il y a eu des fugues quand j'étais minot, mais après le reste... même une fugue, sinon non, tout le reste c'était plus du vrai vagabondage, quoi. Je partais avec l'intention de router, quoi, sans me sédentariser ou m'arrêter à un endroit. J'allais là où je le sentais, en fait.
D'accord.
Je pouvais me retrouver en général c'est ce qui se passait quand j'arrivais dans une gare. Le premier train en partant pour quelque part, c'était souvent le bon train, sans qu'il y ait de logique, ou il pouvait me ramener plus ou moins dans la direction que je venais, c'est pas grave, ça c'était... C'est pas moi qui l'avais décidé, quoi. Et du coup, c'était souvent les bons endroits. Voilà.
Donc en fait, il faut pas vouloir aller quelque part pour y aller. C'est-à-dire, il faut souvent...
Faut pas vouloir. Ça, oui. C'est dans ma démarche où j'ai réalisé que de me perdre dans ces voyages m'a permis de retrouver l'essentiel pour beaucoup de choses, quoi. Dans les valeurs intérieures et de celles du partage. Par rapport à ce que disait aussi Julien avant, et c'est vrai qu'ici, ça rappelle bien les choses, la référence de base... de ce qu'est la réalité, c'est la nature. Tout ça, ça a été complètement perverti par le substrat du système et du mode de vie qui entraîne l'humain là-dedans. Moi, je trouve génial, justement, qu'on vive un lieu qui nous rappelle les choses dans sa bonne forme.
Il y a des voyageurs immobiles qui font des grands voyages intérieurs, aussi.
C'est-à-dire ?
Les voyageurs immobiles, c'est ceux qui, justement, sont à leur table, qui ne voyagent jamais, mais alors, à l'intérieur...
Ouais, c'est l'esprit qui voyage.
Ils font 4-5 révolutions par jour, hein.
Ouais.
Sur eux-mêmes.
Ouais, je vois à peu près.
Et ça t'arrive aussi ?
Ouais, à l'arrière, ouais.
C'est plus voyage intérieur.
Ouais, c'est l'esprit que je fais voyager.
D'accord.
Avant, j'étais un bad boy, mais je suis sorti de mon bad hall. Force et honneur pour tous les frères sortis des halls. L'instru, on sodomise comme si c'était chez Starsky. Mon corps, une vraie distillerie, c'est de la bière ce que je viens de pisser. J'aime les jolies filles, ouais. L'instru, je le trise, mais qui nous attriste, on n'est pas des artistes. J'ai trop pété les plombs, j'arrive plus à cogiter. Philosophie de merde, d'innombrables en merde. Révolutionnaire et merdeux, je rappe ma vie de merde. Je veux la vie de rêve, donc l'instru, je le crève. La vie sert à crever. De quoi moi, j'ai l'air de quelqu'un de grave énervé. Car je vis dans la mer, moi, donc l'état, je l'emmerde grave. Je rappe guidé par les nerfs, car je suis un enfant de la colère. Je suis H24 sur pied de guerre, je me balade quand je suis vénère. Je suis instable, car je suis déter. Je rappe ma vie de rue, j'ai trop tapé dans les murs, j'en ai mal au poing, mais j'ai l'habitude. Ma vie est compliquée, comme si je l'avais déjà niquée. J'ai vécu trop d'horreurs parmi toutes mes erreurs. Mon Seigneur, ayez pitié, on fait tous des erreurs. Le plus dur, c'est de se faire pardonner parmi toutes mes GAV. Je suis pas du genre BCBG. Quand j'étais gosse, je faisais que de me taper. Il n'y a qu'en grandissant que tu apprends à cogiter. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rangé, j'ai arrêté de déconner. Même si l'être humain, c'est le pire des prédateurs. Il court à sa propre perte et c'est ce qui me fait mal au cœur. Mon son prend v'là de l'ampleur. Écoute ce petit truc entre oppression judiciaire, expulsion planétaire, explosion de la Terre. Je suis un électron libre, donc je dégaine le mic et ça te fait mal au crâne. Moi, je préfère être un viking qui a des valeurs de king qu'être une victime qui a grave peur de vivre. Même quand je suis avec des potes, j'ai l'impression d'être seul. Sauvage comme un loup solitaire, faut de la place pour que je sois à fond. Mais tu sais pas si dans le fond j'ai un bon fond.
Donc on enchaîne avec du...
avec du blues.
Ah, moi je perds mon thème, je me perds mon thème. Getting my way, you go 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 way. Getting my way, you go way. Oh my god, you go way. Getting my way, you go way. Faites, faites. Allez.
On a retrouvé un indien.
On
a trouvé un indien des plaines.
Et là, je vais vous faire les mots que j'avais fait à Cécile.
Il nous revient de Charente, là, voilà.
Alors, c'est son dernier texte, mais ça pète, hein, c'est vraiment bien.
Ça, c'est l'avant. Alors, vas-y, fais-moi la démo.
Putain, pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi je vis cette misère? Pourquoi je suis pas dense? Rien que je pillave, y'a que l'alcool qui me désaltère. J'espère au moins faire un truc bien avant qu'on m'enterre chez moi. Ça se plante, ça se tire dessus quand ça part en vrille. C'est honnête ou c'est pas un film, c'est ma vie et c'est pire en vrai. Moi, je suis comme trop, je fume et bois pour oublier. Je veux faire des billets, moi les liens, je veux les piller. Un jour, tu veux t'en sortir, piller. Les riches et les pauvres, c'est la règle, faut s'y piller. On n'a pas de Tunis en trop pour ça qu'on veut les piller. Les petites chez moi, tu sais, ils ne savent que voler. Mais c'est normal quand on vit sous le seuil de pauvreté. Ça commence par Tchara, après on fait son gros coup. Holness où on devient fou quand il n'y a pas de sous. Tu sais qu'il y en a plein qui finissent en maison d'arrêt, font les choses sans réfléchir, passent leur vie en maison d'arrêt. Ceux dans le droit chemin passent pour des gros minables, pendant que d'autres jouent les mafiosos indominables. C'est le paradis du vice, nous tes conseils on s'en fiche, nous. Mais voilà, c'est tout.
Ça y est, je me suis dit.
C'est super, ça fait une traduction. une traduction simultanée. C'est nickel.
Lozère, terre de contraste.
Lozère, terre de contraste. Ouais. Terre d'accueil et terre de contraste. Et
je me suis dit, il y a peut-être des âmes sensibles, donc je vais peut-être m'en tenir.
Tu peux partir d'un mot, tu peux décéder.
Non, c'est. Au début, j'ai commencé avec des amis sur Holness, mais juste entre nous, on s'amusait comme ça. On faisait des phrases. Et... Non, sinon, je suis tout seul, je bosse souvent chez moi. Ouais. Sinon, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont à peu près dans le même truc que moi. Je vais écrire ses propres morceaux. Et ça motive un peu plus le fait de rencontrer des personnes. On fait des instrus, des fois, on se fait des petites sessions pour rigoler entre amis. On pose, on délire. Et voilà.
T'as pas des plans pour, je sais pas.
Pour faire des CD, non, pas encore.
Ah ouais.
J'ai assez d'inspi, mais j'ai pas encore de plan. Ouais,
je vois que la bestiole, elle est bien là. Hein.
L'esprit, bien, hein. Petite maison dans la prairie, tu n'y arrives pas.
C'est vraiment, on va pas y arriver là. Vous avez vu que Cédric a de la rage en lui, ça se sent dans son texte. Il n'y a pas de doute. Et on lui disait que, il nous disait qu'en venant au Marazeil. Qui est complètement un petit peu comme toi, les gens disent bonjour, enfin, c'est quoi ce délire, enfin, il avait changé de d'environnement et on s'était dit, tiens, ce serait bien qu'il fasse une espèce de rap là-dessus, sur cette espèce de conversion.
Non, pareil, quand je rentre, justement, c'est comme une partie de ma blessure que je lâche.
Quoi. Voilà, et en fait, c'est vrai, c'est comme de la boxe taille.
Il faut que ça vienne.
Oui, il faut que ça vienne.
Et t'as pas facile. J'ai 24 ans.
24 ans. Moi, je faisais la même que toi, mais avec le métal. Ouais. C'était la même chose, je faisais de la boxe, je tapais dans le sac de frappe, je hurlais comme c'était pas possible. Moi je pense que le problème des gens comme nous, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif. C'est qu'en fait on est hyper sensible et on a le sentiment de vivre dans un monde, je sais pas, hostile et du coup c'est la réponse à ça. Quoi.
Après, moi je pense. Moi j'ai grandi dans un milieu ultra violent, j'avais pris l'habitude de me battre pour un oui, pour un non. Donc après c'est devenu comme une nature quoi. Non, je sais pas. C'est... J'ai été élevé avec une manière aussi spéciale. Mon père, il me disait plus « tape d'abord, parle après » que « fais-toi des amis ». Donc, à l'école, j'avais pas beaucoup de copains. Et après, en grandissant, j'ai réfléchi moi-même.
Mais tu vois, on disait, enfin, en t'écoutant, là, ça réveille une chose que je disais tout à l'heure, où j'ai expliqué que la ville où je suis né et la ville où vivait mon grand-père, en fait, il y avait un grand fossé entre les deux, malgré qu'il n'y ait que 20 km. Et moi, ce que je ressens, c'est que je vivais aussi dans un milieu hyper violent, où il n'y avait pas forcément beaucoup de respect. Ça, enfin, les gens, ça ne les gênait pas de te dire « tu ne vois rien du tout, tu ressembles à rien ». Et d'un autre côté, à l'opposé, chez mon grand-père, il y avait un côté hyper dur, hyper autoritaire, où tu te levais à telle heure le matin, fallait bosser, mais par contre, il y avait du respect.
Ouais. C'était plus dans le cadre familial aussi.
Ouais, voilà, ouais. Mais enfin, ce que je te disais, c'était de l'autre côté, c'était dans un cadre familial aussi, quoi.
Ouais. Moi, c'était plus le cadre de la rue.
Moi, j'ai traîné aussi dans la rue avec les punks, tout ce qui va avec, quoi, le folklore. Ouais, il y a du vécu. Puis ça fait du bien en même temps de voir tout ce qui peut exister et puis de se dire ça me convient, ça me convient pas. Et puis tu fais ta petite sauce et puis tu te dis moi je suis peut-être plus fait pour vivre ça que ça.
Ouais.
Mais c'est clair qu'il y a des milieux, c'est pas un cadeau.
Ouais, il faut réussir à se dire j'arrête là, je change de vie pendant qu'il y a encore temps. Parce que moi, des conneries, j'en ai fait mille et une dans ma vie. Jusqu'à présent, j'ai jamais pris de prison. Et je préfère que ce soit comme ça que de continuer mes conneries et de me finir je sais pas où.
Non, par rapport à Cédric et son chemin, parce que moi, je trouve que c'est un beau chemin. La première fois que je t'ai vu, c'était, je crois que tu venais d'arriver. C'était une des premières fois où tu venais là. Tu venais voir Cécile et moi, le personnage, je l'avais enregistré. Pourquoi, comment, alors là, faut pas chercher, tu sais, c'est... après, quand t'as été écorché, t'as rien demandé, et que pendant 10, 15, je sais pas combien de temps de ta vie, et ça, c'est ton histoire, et ça te regarde que toi, mais où tu te retrouves comme ça, à avoir de la purulence et des mauvaises choses qui sont pas de ton fait, faut bien nettoyer tout ça, après, ensuite. Et même si c'est hyper violent et trash, ce que tu dis, ma foi, si ce vécu-là passé... T'as besoin de l'expulser et de crever. Enfin, l'abcès, tu l'as crevé. Maintenant, s'il faut peut-être des mois et des mois, peut-être une année ou deux, le vider, ma foi, vide. Et après, de toute manière, tu te rendras compte à un moment ou un autre que si t'as rien ici qui le remplit, à un moment, tu vas te retrouver avec de nouveau ton contenant plein de vide. Et tu pourras le remplir de ce que tu souhaites, quoi. Oui, il ne faut rien lâcher et puis continue à la limite si de lâcher ça. Pour que ça sorte, et puis t'es sur la bonne ligne. Enfin, je pense pas être le seul à penser ça, mais...
Peut-être qu'un jour tu seras toi-même surpris de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'une transition se sera faite et tu diras autre chose, ou tu utiliseras un autre mode d'expression, parce que celui-ci correspondra pas à l'état d'esprit dans lequel tu seras.
Pourtant, quand j'ai écrit ce morceau, en fait, je pensais justement au sujet que Christophe me demandait de l'après, en fait. Et je me rends compte que j'ai l'impression que c'est moi qui a du mal à m'adapter à l'environnement. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être aussi que ton mode d'expression, il collait bien à ce que tu avais envie de dire. Et qu'aujourd'hui, quand tu utilises ce même mode d'expression, tu es encore dans l'esprit du passé. T'es marqué aussi. Donc, faut le temps de... C'est pas parce que tu as changé d'endroit que tu as... T'es encore marqué.
T'as pas changé ton cerveau aussi entre temps. Tu vois ce que
Les invente pas trop en magasin.
Voilà, en plus, en magasin, le cerveau neuf, tu peux en chercher et surtout. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'était un exercice qu'on me demandait. C'était quelque chose qui, d'ailleurs, peut-être totalement extérieur à toi. Et c'est pour ça que pour l'instant, tu n'y souscris pas. Tu vois, parce que pour toi, comme dit si bien Jérémy, effectivement, t'es dans un temps où il faut que tu vides les choses encore. Non, parce que c'est nécessaire.
Toute la vie, parce qu'il peut pas en être naturel de l'individu. C'est...
Enfin, tout le monde fait pas le chemin de la même façon. Moi, j'ai ramassé des trucs. Ouais. J'en parle pas parce que comparativement par rapport aux expériences qu'a présenté Cédric, moi, c'est mort de rire, quoi. Enfin, c'est de la petite école là où lui, il était high school.
Parce qu'on cherche, c'est pas non plus à comparer les histoires.
J'ai vu de loin ce genre d'expérience-là, de lieu et de mode d'existence. J'ai pas été immergé et j'ai pas eu à devoir survivre là-dedans, parce qu'il est plus question de vivre. Et... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que même avec de l'empathie, c'est difficile de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un qui l'a vécu du dedans, que de quelqu'un qui a pu le voir et en parcourir en satellite.
Et puis, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu réinventes ton langage, ce qui est presque impossible. Ouais, tu sais, il y a des choses qu'on a tellement... On t'a tellement engrammé dans ton corps, t'es vraiment imprégné que...
Bah, j'ai vécu 23 ans dedans.
Je te vois pas chanter le bleuet et la sauge. Ouais. Hein, tu vois, si un jour tu fais un texte sur le bleuet et la sauge, là, c'est sûr que là, on va se dire, il y a un problème, là. Là.
Il est resté perché,
voilà.
Qu'est-ce qu'il a bu avant de venir.
Donc voilà, mais...
Mais ça peut venir avec le temps.
Oui,
ça peut venir avec le temps, ouais.
C'est un travail, en fait.
Ouais.
J'ai pas peur, hein.